RFI minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
Rima Hassan de retour en France. L'eurodéputée LFI a été expulsée ce jeudi d'Israël. Elle avait été arrêtée au début de la semaine à bord d'un bateau qui tentait de se rendre à Gaza. Nous l'entendrons au début de ce journal de la place de la République à Paris où elle s'est rendue sitôt arrivée pour célébrer sa libération. Une minute de silence à midi ce jeudi dans les établissements scolaires de France. En hommage à la surveillante tuée avant-hier par un collégien de 14 ans, il a été mis en examen pour meurtre et risque 20 ans de prison. Dissolution aujourd'hui par le gouvernement de la Jeune Garde, un mouvement antifasciste, et de Lyon Populaire, un groupe d'ultra-droite. Pour la Jeune Garde, cela passe mal auprès de la gauche, surtout auprès du chef de LFI, Jean-Luc Mélenchon. Et puis le leader indépendantiste Kadak Christian Théin a été libéré ce jeudi par la Cour d'appel de Paris. Il était en détention provisoire depuis un an dans le cadre de l'enquête sur les émeutes qui avaient fait plusieurs morts en Nouvelle-Calédonie au printemps 2024.
24 heures en France.
Dans une dizaine de minutes, musique. Nous avons rendez-vous avec Samy Galbi et son mélange de disco, pop, rail, shabby et électro. Et puis pour le dernier jour de la conférence de l'ONU sur les océans à Nice, ce vendredi, on s'intéressera aux routes maritimes.
RFI.
Rima Hassan est en France. L'eurodéputée LFI avait été arrêtée en début de semaine par l'armée israélienne avec d'autres militants à bord d'un bateau qui tentait de se rendre à Gaza. Ce jeudi, elle a été expulsée d'Israël et son voyage en avion aurait été agité, selon l'AFP, en compagnie de voyageurs qui lui étaient hostiles. En tout cas, une fois sur la terre ferme, l'eurodéputée franco-palestinienne s'est rendue place de la République à Paris où l'attendait pour célébrer sa libération plusieurs centaines de personnes, dont une douzaine de députés LFI. Rima Hassan acclamée lorsqu'elle est apparue. On l'écoute.
Notre action, tout le monde le sait, elle était symbolique, mais elle était éminemment politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza, mais aussi et surtout à dénoncer le blocus et à le briser. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. On n'a rien vécu par rapport à ce que vit le peuple palestinien. On a senti le lot d'humiliation coloniale, le lot de persécution. Ce que je veux le redire, nous avons été kidnappés en eau internationale.
L'eurodéputée Rima Hassan, des propos accueillis par Victorien Villaume, place de la République à Paris. Gaza toujours avec cette plainte déposée en France pour complicité de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité contre la société Eurolinks. L'entreprise marseillaise est soupçonnée de livrer des pièces de mitrailleuses à Israël. Et il y a une semaine, les dockers du pont de Fos-sur-Mer près de Marseille ont bloqué 14 tonnes de matériel d'armement Eurolinks qui devait être embarqué dans un navire israélien direction Haïfa. Écoutez, Emmanuel Daoud, c'est l'avocat de la Ligue des droits de l'homme qui soupçonne l'armée israélienne d'avoir utilisé les équipements Eurolinks pour tuer des civils en territoire palestinien.
La question que nous posons au travers de cette plainte avec constitution de partie civile déposée par la Ligue des droits de l'homme et dont est saisie dorénavant le pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, comment se fait-il qu'Eurolinks ait pu bénéficier de licences d'exportation pour ses armements? Je rappelle que c'est une commission qui se réunit mensuellement et cette commission est composée de représentants du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur, sauf erreur de ma part, notamment. Et de notre point de vue, en application des règles du droit pénal, nous pouvons considérer à ce stade qu'il y a des éléments de vraisemblance que ces licences ont été données de façon illégale et infondée et ont permis la fourniture de ces matériels. Et pour moi, si tel était le cas, ces hauts fonctionnaires devraient être poursuivis également pour complicité de ces crimes, parce qu'ils ont donné les moyens pour que ces matériels puissent être exportés.
L'avocat Emmanuel Daoud, joint par Amélie Beaucourt. Une minute de silence ce jeudi à midi dans les établissements scolaires de France pour l'assistante scolaire assassinée, un temps de recueillement en hommage à cette jeune femme de 31 ans, tuée mardi à coups de couteau par un collégien de 14 ans, qui a été mis en examen pour meurtre aujourd'hui. Il risque 20 ans de réclusion criminelle. Deux mouvements ont été dissous aujourd'hui en Conseil des ministres. Lyon Populaire, un groupe d'ultra-droite, et La Jeune Garde, un mouvement antifasciste dont le porte-parole est le député LFI Raphaël Arnaud. À la fin du mois de juin de l'année dernière, 8 membres de la Jeune Garde avaient été mis en examen, soupçonnés d'avoir agressé en mai un adolescent dans le métro parisien après une conférence de soutien à Gaza de Rima Hassan. Mais la dissolution de ce jeudi est fortement contestée. Charles Turien, Tomaka.
Ne rien laisser passer, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur dans un post sur X pour justifier la dissolution du groupement. Dès le 29 avril, Bruno Retailleau avait engagé la procédure, reprochant à la Jeune Garde, je cite, de provoquer des agissements violents contre les personnes, provocation bien souvent suivie des faits. Ce matin, en compte rendu du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement justifie cette dissolution, Sophie Primas.
C'est le signe de la volonté du Premier ministre et bien sûr du ministre de l'Intérieur d'interdire tous les regroupements, tous les rassemblements qui mènent à la violence, qui prônent la violence dans le combat politique.
Une analyse totalement réfutée par les Insoumis qui rappelle que la Jeune Garde a été créée face à la montée de la violence de l'ultra-droite à la fin des années 2010. Thomas Porte, député LFI.
Comme amène la preuve de la violence de la Jeune Garde, quelles sont les actions violentes de la Jeune Garde ? Quelles sont les militantes et les militants de la Jeune Garde condamnés pour des actions violentes ? Est-ce qu'il y a une seule procédure en cours ? Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée ? Est-ce qu'il y a une seule personne qui a été condamnée ? Est-ce que le gouvernement est venu amener un élément de la Jeune Garde par rapport à des actions violentes ? Je ne crois pas.
La Jeune Garde a annoncé qu'elle portera un recours devant le Conseil d'État.
Charles Turien, Tomaka. Des policiers auraient-ils commis des violences lors de l'évacuation le 18 mars dernier de jeunes migrants qui occupaient le théâtre de la Gaîté Lyrique? En tout cas, on vient d'apprendre qu'une enquête avait été ouverte 3 jours après, suite à un signalement de l'IGPN, la police des polices. Christian Théin a quitté la prison de Mulhouse, dans l'est de la France. La cour d'appel de Paris a donné raison au juge d'instruction qui avait ordonné la libération conditionnelle des responsables indépendantistes kanak incarcérés dans l'Hexagone et donc loin de chez eux depuis 1 an. Christian Théin, aujourd'hui président du FLNKS, avait été mis en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur les émeutes en Nouvelle-Calédonie qui ont fait plusieurs morts au printemps 2024. À l'époque, il était chef de la cellule de coordination des actions de terrain, mais il a toujours nié avoir appelé à commettre des violences. Aujourd'hui, sa libération suscite des réactions contrastées. Aurélien Devernois.
Une victoire pour le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, un bon signal pour le patron des députés communistes Stéphane Peu. C'est surtout à gauche, où l'on dénonçait depuis des mois des détentions provisoires aux relents coloniaux, que la satisfaction s'affiche, car dans les autres bords politiques, c'est le silence, voire la consternation chez les élus anti-indépendantistes, à l'image du député néo-calédonien Nicolas Metzdorf, pour qui ces libérations sont un mauvais message, brouillant la situation à quelques jours du sommet extraordinaire devant être organisé à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le camp loyal liste avertie, si Christian Théin devait siéger à la table des négociations, ce sera sans lui. En tant que président du FLNKS, il pourrait prétendre à faire entendre sa voix lors des discussions, mais l'alliance indépendantiste est elle-même divisée sur son cas. Pas question non plus d'affaiblir le ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls, dont la méthode saluée par les indépendantistes a été remise en cause par Emmanuel Macron. Des dissonances au sein de l'exécutif qui inquiètent, le nouveau projet évoqué cette semaine par le chef de l'État, qui souhaite notamment tourner la page des référendums, suscite la méfiance dans les deux camps.
Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi narcotrafic. Il ne censure que quelques articles et valide donc le régime carcéral d'isolement prévu pour les narcotrafiquants les plus dangereux. Des députés de gauche estimaient que de nombreux articles faisaient peser de graves menaces sur l'état de droit. Mais le régime carcéral, inspiré des lois anti-mafia italiennes, n'a suscité qu'une réserve des sages sur la question des fouilles intégrales. L'ARCOM, le gendarme des médias en France, met en garde ce jeudi 5 sites pornographiques qui n'ont pas mis en place de système de vérification de l'âge de leurs utilisateurs. La mise en garde, c'est la première étape avant un éventuel blocage. TikTok et son 1 milliard d'utilisateurs dans le monde au centre d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale française. Depuis 3 mois, les députés cherchent à comprendre les effets psychologiques de la plateforme chinoise sur les mineurs. Ce jeudi, les représentants du réseau social ont été longuement interrogés sur la modération des contenus et sur l'âge des utilisateurs, sans véritablement rassurer ni convaincre les parlementaires. Manon Hilaire.
Le jour où vous abandonnez l'égalité, on en discutera. Par contre, tant que vous allez nous parler d'égalité, nous faire chier avec ça, tu mets une gifle. Je relis.
Ces mots ne sont pas ceux du président de la commission, Arthur Delaporte, mais d'un célèbre TikToker masculiniste.
Est-ce que ce type de propos sont contraires aux règles de la plateforme? Est-ce que c'est acceptable ou pas?
On ne peut pas commenter là-dessus sans avoir vu vraiment la totalité de la vidéo.
Pas de commentaires de TikTok, dont ses représentants l'admettent. Les 500 modérateurs francophones sont loin de pouvoir tout filtrer. Difficile aussi de réguler les lives, des vidéos en direct, souvent addictives, où les abonnés peuvent envoyer des dons d'argent à la demande des influenceurs.
Est-ce que crier en continu le nom des donateurs, dire « Allez la team », c'est un encouragement à la donation ?
Écoutez, moi je ne considère pas qu'un remerciement est un encouragement à la donation, je considère que c'est de la politesse.
Une politesse qui rapporte, les 10 plus gros influenceurs de live gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, reconnaît difficilement ce représentant de TikTok. Et cet argent vient parfois de très jeunes usagers. La moitié des 11-12 ans a un compte avant le minimum requis de 13 ans. Le réseau social reconnaît des difficultés à contrôler l'âge de ses utilisateurs.
On termine ce journal avec l'appel du 18 juin. Le général de Gaulle, réfugié à Londres, vous le savez, avait exhorté par cet appel sur les antennes de la BBC, c'était en 1940, à résister à l'Allemagne nazie. Eh bien, ce jeudi, le manuscrit de ce fameux appel a été remis par la famille de Gaulle aux Archives nationales françaises lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans une maison d'enchères parisienne. Les deux feuilles recto-verso, très raturées, seront exposées gratuitement à l'hôtel Soubise, toujours à Paris. Et ce sera évidemment à partir du 18 juin, c'est-à-dire mercredi prochain.
24 heures en France. Christophe Paget.
Et on va parler maintenant de Sami Ghalbi, cet helvéto-marocain, suisse et marocain, est devenu un véritable phénomène avec sa musique qui mélange disco, pop, raï, shabi et électro. Sami Ghalbi avait été révélé en 2023 sur la scène des Transmusicales de Rennes, en France. Il a sorti début mai son premier album, Yalla Bye Bye. Ce jeudi, il était en concert à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, dans le cadre du festival Rio Loco. L'occasion pour lui de répondre à quelques questions d'Olivier Roger.
Bonjour Sami Ghalbi.
Bonjour Olivier.
Yalla Bye Bye, votre premier album est sorti le mois dernier, un album qui vous ressemble, à cheval sur deux continents, l'Europe et la Suisse où vous êtes né d'un côté, l'Afrique et le Maroc de l'autre, d'où viennent vos ancêtres. Alors plus qu'une fusion d'influences, on a le sentiment d'un perpétuel balancement entre ces deux cultures.
Je pense que beaucoup de choses que je raconte dans mes morceaux parlent d'aller-retour, d'échanges entre deux parties de mon identité, de lieux sociaux, de communautés, de sociétés. Et aussi ben, cette dualité qui est souvent décrite comme quelque chose de parfois incompatible, et moi que j'essaye de rendre compatible, donc il y a de ça. L'album s'appelle Yalla Bye Bye, donc il raconte le départ, mais il raconte aussi le retour, et j'avais pas beaucoup de temps pour le faire, donc c'était aussi un peu ça, Yalla Bye Bye. On met tout ça dans la boîte, on termine ça et on envoie au mix. Puis bon, il y a aussi ben, la question hein, de l'identité hybride.
Elle transparaît dans votre musique, cette hybridité de l'identité.
Oui, je pense que c'est un peu malgré moi aussi, parce que c'est, voilà, c'est moi. Il y a des choses que j'aime dans ces deux cultures. Après, sans forcément les essentialiser non plus, dans le sens que, autant au Maroc qu'en France ou en Suisse, bon, il y a de la techno partout, des mouvements politiques, militants, queer, antifascistes dans les deux. Enfin, voilà, pour moi, c'était intéressant de faire rencontrer aussi ces deux milieux. Donc, j'ai pu inviter aussi des amis musiciens marocains du groupe Kabre Shihat l'année passée. Ils sont venus en Suisse. On a fait toute une créa avec eux. Et puis avec Inès Mouzoun qui m'accompagne maintenant dans le live band, productrice, pianiste bulgare et marocaine qui est basée à Genève. Elle, c'est une nerd des synthés, une très bonne musicienne, et eux apportaient tout leur répertoire, tout leur savoir aussi, plus ancestraux sur les textes, sur plus l'aspect théâtral aussi, de la haïta, du shabi marocain.
Alors du raï, de la haïta, plus de la dance music, et comment fait-on pour assembler tout cela? Est-ce que ça vous vient spontanément?
Je pense qu'il y a une certaine spontanéité qu'il faut garder, en tout cas. Bon, dans ce projet-là, j'avais vraiment envie de faire une musique dance et une musique électronique. Moi, je viens plutôt de la musique acoustique de base et de la musique band, donc groupe de rock, de funk, de blues. Donc le switch, pour moi, ça a été c'était presque un truc il y avait une forme de jouissance dans le fait de pouvoir mettre des grosses basses, des gros kicks là-dessus et donner de la rondeur et élargir aussi le spectre des fréquences et d'avoir un truc un peu plus agressif, un peu plus club en fait. En étant vraiment libre, j'avais envie d'aller dans le kitsch, j'avais envie d'aller dans l'ultra agressif, fat, grosse basse, je pouvais aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui fait du bien artistiquement dans le processus de création.
Merci beaucoup Samy Galbi.
Samy Galbi avec Olivier Roger. On rappelle le titre de son album, Yalla Bye Bye. À voir et surtout à écouter au Festival des Vieilles Charrues, ce sera le dimanche 20 juillet. RFI, il est minuit 15 à Carré dans l'Ouest où ont lieu les Vieilles Charrues et à Nice dans le Sud-Est. Nice où ce vendredi, ce sera le dernier jour de la conférence de l'ONU sur les océans. Nice que l'on va quitter pour se rendre dans l'océan Indien et parler des enjeux des routes maritimes, car l'océan Indien abrite l'une des plus importantes routes du commerce mondial qui relie les producteurs de pétrole du Moyen-Orient aux marchés en Asie, en Europe et au-delà. Un espace gigantesque de plus de 70 millions de mètres carrés qui représente 25% du commerce mondial et où évidemment le passage des navires est étroitement surveillé. Et à ce titre, l'île française de La Réunion se situe à un emplacement stratégique. Notre envoyé spécial Anne Verdaguet s'est rendue sur place au CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la région sud-océan Indien.
Sur les écrans radars, une vaste étendue de mer à surveiller, celle des zones économiques exclusives de la France dans le sud de l'océan Indien, soit 5,6 millions de kilomètres carrés. À la passerelle, le centre opérationnel du CROSS Réunion, les équipes sont sur le pont 24 heures sur 24 pour tenter d'identifier les éventuelles avaries en mer.
Là, notre rôle, ça va vraiment être de détecter des situations à risque qui concernent le trafic en général et plus spécifiquement le trafic commercial.
Alice Gaillard, la directrice adjointe du CROSS Sud-Océan Indien.
Détecter pour éviter des scénarios d'échouement, de collision entre deux navires, les pollutions, essayer de les détecter et d'identifier les navires responsables et de pouvoir les poursuivre. Détecter des navires qui seraient stoppés, qui ralentiraient ou qui auraient des routes erratiques. Donc l'idée c'est d'interroger les navires, essayer de prendre contact avec eux par tout moyen pour savoir ce qui se passe à bord.
Chaque année, 20 000 navires passent par l'océan Indien, un trafic qui s'est accru ces dernières années.
Il faut savoir que le trafic s'intensifie depuis la crise des attaques de Houthis au Yémen. Donc en fait, aujourd'hui, les plus gros porte-conteneurs ne passent plus par le canal de Suez. Tous les équilibres géostratégiques impactent les routes maritimes. Du coup, on a un report du trafic sur la route qui passe par le Cap de Bonne-Espérance avec une augmentation significative, environ 20 à 30% d'augmentation sur cette route-là. Donc ça veut dire plus de travail de surveillance et de vigilance de la part du CROSS.
Sur l'île Maurice, l'Association des États riverains de l'océan Indien travaille sur la coopération entre les différents acteurs de la zone pour renforcer la surveillance des navires et protéger la biodiversité. Méline Tarrer, experte technique internationale au sein de l'IORA.
Les Outre-mer français constituent la plus grande zone économique exclusive de la France, constituent plus de 90% de la biodiversité marine de la France. Et en termes de contestation, malheureusement, dans l'océan Indien, c'est constant. Étant donné qu'il y a autant d'États et autant d'îles, les limites des zones économiques exclusives, même si c'est fixé par le droit international de la mer, mais là, il y a toujours cette question de qui a la capacité d'intervenir. Mais dans le fond, cette population, c'est une population qui est liée historiquement, culturellement. Donc c'est une population qui veut du vivre ensemble et qui veut pouvoir évoluer sur le long terme dans un environnement sain.
En plus du trafic maritime, l'Indian-Océanie est l'un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale et la troisième région du monde la plus à risque face aux effets du dérèglement climatique.
Un reportage signé Anne Verdaguet.
Le journal des Outre-mer.
Et à la une de ce journal, la grande émotion des familles des marins du Ravenel, ce mercredi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir, familles qui ont été invitées à visionner les images de l'épave du chalutier, disparue en janvier 1962, épave désormais formellement identifiée. Écoutez ces quelques réactions recueillies par le micro de Flavie Brie.
Ça fait tellement d'années qu'on attendait ce moment et en même temps, c'est toujours difficile parce que ça rappelle des souvenirs. Donc, c'était de toute façon nécessaire, je pense, de voir ces images. Et c'est compliqué parce que on sait maintenant que l'identification est bien celle du Ravenel. Et en même temps, pour ce qui me concerne en tout cas, un peu de mal à formaliser comme ça parce que c'était tellement inattendu. Il y a eu des périodes de recherche qui malheureusement n'ont pas été fructueuses. Et là, aujourd'hui, on nous dit c'est le Ravenel et il est là. Donc c'est un mélange d'émotions, de sentiments. Mais oui, bien que ce soit très émouvant, je suis finalement heureuse d'avoir pu voir ces images aujourd'hui.
C'est très émouvant, c'est très perturbant, c'est même époustouflant parfois de voir des images, ce somptuaire marin avec toute cette végétation marine qui entoure toutes les rambardes. Je trouvais ça beau et en même temps mystérieux de savoir qu'il était si près et que ça fait tellement longtemps qu'on le cherche, posé là sur le sable, comme si qu'il attendait... qu'on vienne le retrouver, quoi.
Je pense très fort à mes grands-parents et puis à mes oncles et tantes aussi, et donc qui auraient tellement voulu savoir. Et puis aussi, je pense à l'ensemble des familles qui malheureusement sont parties aujourd'hui, qui auraient tellement souhaité savoir, connaître le lieu de l'épave.
Direction l'océan Pacifique et la Nouvelle-Calédonie, où l'enquête est allée très vite du côté de la tribu de Saint-Louis après l'incendie de plusieurs salles de classe en début de semaine. Un jeune homme a été interpellé mardi soir. Maurice Violeton.
C'est très clairement une information qui devrait ramener un peu de calme au Mont-d'Or et plus précisément au sein de cette tribu de Saint-Louis. Les faits, mardi soir, un homme d'une vingtaine d'années appréhendé par les forces de l'ordre. Ceux-ci étaient en surveillance au niveau de l'école Ave Maria, cible d'incendie volontaire à 3 reprises en l'espace de quelques jours. L'individu arrêté faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. L'enquête se poursuivra pour déterminer son niveau d'implication dans la détérioration de l'établissement catholique de la zone. Ces incendies volontaires et criminels avaient suscité de vives réactions au sein de la communauté, notamment auprès des parents d'élèves s'interrogeant sur les conditions de reprise des cours à la prochaine rentrée. Plus généralement, et après une année 2024 particulièrement sensible avec tous les viseurs sur Saint-Louis, la gendarmerie s'était engagée pour sécuriser les lieux et faire cesser la multiplication de ces actes criminels. Parallèlement, des moyens ont été déployés pour tenter d'identifier le ou les auteurs des faits, et cette première arrestation marque donc un début de réponse à cette tension apparue en début de semaine au sein de la tribu Saint-Louis.
L'océan Indien, pour terminer, avec une situation grave et des besoins colossaux, c'est le constat sans ambiguïté dressé par la Chambre régionale des comptes Réunion-Mayotte à propos des écoles du département 101, département où 85% des élèves seraient en rotation, ce qui veut tout simplement dire qu'ils se partagent un parc scolaire très insuffisant. Antoine Garnier, la première réunion.
Près de 64 000 élèves scolarisés à Mayotte au début de l'année scolaire, c'est 22% de plus que 5 ans plus tôt. Et en 2019, il n'y avait déjà pas assez de classes pour accueillir tous les enfants du département le plus pauvre de France. Alors aujourd'hui, la situation décrite par la Chambre régionale des comptes est catastrophique. Faute de place, plus de la moitié des élèves inscrits dans les 13 communes contrôlées sont scolarisés selon un système de rotation. Les auteurs du rapport expliquent aussi qu'en 2023, seuls 8% des élèves de Mayotte bénéficiaient d'un repas le midi aux qualités nutritionnelles satisfaisante. Et selon la Chambre, c'est en grande partie le résultat d'un manque de volonté des élus mahorais. La plupart des maires gèrent la surpopulation scolaire en mettant en place des conditions d'inscription, je cite, « très discriminatoires », des mesures qui permettent de réguler les tensions mais qui laissent entre 3 000 et 5 000 enfants sur le carreau. Le manque de volonté des élus locaux est épinglé à plusieurs reprises dans le rapport. Malgré un financement presque intégral de l'État et des besoins beaucoup plus importants que dans l'Hexagone, les communes mahoraises consacrent par élève 38% de moins que les communes hexagonales.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand. Bonne soirée.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et une question ce jeudi dans le Conseil Santé, comment lier problématiques environnementales et problématiques de santé? Raphaël Constant.
Romain Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cadre de santé dans les services de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris. Romain Fontaine, aujourd'hui, comment les hôpitaux peuvent faire entrer les problématiques environnementales dans leur structure ?
Ben justement, aujourd'hui, je trouve que c'est tout un enjeu des hôpitaux qui ont une part majeure dans l'impact environnemental sur la société, parce que je trouve qu'avant, on était beaucoup dans le curatif, on traitait les patients, sans prendre vraiment conscience que l'hôpital, lui, pouvait avoir un impact sur la société. Et donc, plus ça va, plus les hôpitaux en prennent conscience, et le tout est de s'engager collectivement et organiser une structure qui permette de prendre des décisions et trouver des orientations qui permettent justement de réduire cette empreinte écologique et aussi de faire rentrer la citoyenneté au sein de l'hôpital, parce que forcément on travaille avec des professionnels qui eux font des choses chez eux et l'intérêt est de les reproduire à l'hôpital.
Et alors dans cette même réflexion, comment sensibiliser du coup les soignants à transformer leurs gestes et leurs pratiques ?
Et bien justement en leur faisant prendre conscience que c'est possible, parce que justement moi j'ai bien évidemment initié cette démarche au sein de mon service. Et au début, à l'initiation du projet, il était, ce qu'on me disait davantage, c'était « mais c'est pas possible, l'écologie à l'hôpital, ça n'a pas sa place, parce qu'on est là pour soigner avant tout ». Et donc la sensibilisation et la réalisation des soignants du fait que c'est possible de le faire a été une part très importante. Et justement la sensibilisation par moi, une formation que j'ai pu avoir sur l'écologie et montrer par des actions simples au début que c'était possible et quel est l'intérêt aussi.
Qu'on peut rendre l'hôpital plus vert. Merci oui. Romain Fontaine pour ces éclairages. Tout à l'heure dans Priorité Santé, émission consacrée à l'albinisme, à la veille de la journée mondiale de sensibilisation à cette maladie qui se tient tous les ans le 13 juin. Rendez-vous à 9h10 temps universel.
Et l'émission, ce sera, puisque nous sommes la nuit, à 1h10 temps universel. C'est la fin de 24 heures en France. Merci à Fabrice Viollet à la présentation, à Charlotte Deroy à la rédaction en chef, que demander de plus. Dans quelques instants, la dernière édition d'Afrique Soir avec Sophie Pouzrat. Avant cela, sachez qu'Aya Nakamura, une des chanteuses francophones les plus écoutées au monde, a dévoilé ce jeudi son double de cire au musée Grévin un an après avoir participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Il aura fallu 6 mois de travail pour créer cette statue de l'artiste franco-malienne. Et maintenant, direction la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones avance de 102 points et atteint 42 968. L'indice du Nasdaq s'offre 47 points pour finir à 19 662. Décidément, les chiffres de l'inflation au cours du mois de mai aux États-Unis se révèlent meilleurs que prévu. Après la hausse de seulement 0,1% de l'indice des prix à la consommation publié hier, on apprend aujourd'hui que l'indice des prix à la production ne grimpe lui aussi que de 0,1%. C'est une bonne nouvelle, saluée par le marché obligataire. On voit le rendement du T-bond à 10 ans retomber à 4,36. Personne, bien sûr, ne crie victoire, et surtout pas la Réserve fédérale, dont on anticipe la décision la semaine prochaine de ne pas modifier son taux directeur, car les augmentations de droits de douane devraient commencer à relancer la hausse des prix au cours des prochains mois. La modération inattendue de l'inflation aux États-Unis, en attendant, pèse sur le dollar. L'euro s'apprécie vivement jusqu'à 1,1577. D'ordinaire, la montée des tensions entre Téhéran et Washington favorise plutôt le billet vert, mais ça n'est pas le cas ces temps-ci, notamment du fait de la politique protectionniste du président Trump qui fait craindre un retour de l'inflation, mais aussi une accélération de l'endettement public, qui peut peser aussi sur la compétitivité des États-Unis. Depuis le début de l'année, par rapport à un panier de grandes devises, le dollar a chuté de quelque 10% au profit de l'euro, du yen japonais ou du franc suisse. Après sa forte hausse hier, le baril américain de pétrole recule à peine et reste proche de 68 $. Dans la foulée de la tragédie d'Air India, le cours de Boeing chute de près de 5%. L'indice Dow Jones arrache 0,2%, le Nasdaq également.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent. Et à Nice, Anne-Cécile Bras.
Que peuvent attendre les pays africains de cette troisième conférence des Nations Unies sur l'océan ? Pêche, gestion du littoral, traité sur la haute mer, quelles sont les opportunités à saisir ? Réponse avec nos invités en direct de la baleine.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI.
Géopolitique, Clotilde Dumay.
Il est né d'un premier accord signé en 1985, l'espace Schengen a 40 ans. Les 29 pays qui en font partie se sont théoriquement accordés pour gommer les frontières intérieures et permettre à leurs citoyens de circuler librement. Mais les défis sécuritaires et migratoires éprouvent ce système pourtant pilier de la construction européenne.
Géopolitique, Clotilde Dumay.
Samedi, à partir de 17h10 TU.
RFI.